France Culture. Question du soir, Quentin l'a fait.
3 ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, la question de savoir comment mettre fin à cette guerre reste plus que jamais d'actualité. Entre les pourparlers américano-russes Ariad, les craintes européennes d'être marginalisées, le général Benoît Durieux et Olivier Vivorca font paraître les maîtres de la stratégie et nous donnent des clés de compréhension pour mieux comprendre ces conflits. Alors un invité ce soir, Benoît Durieux, bonsoir mon général.
Bonsoir.
Vous êtes ancien directeur de l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de Défense National. Vous êtes spécialiste de Clausewitz. Vous avez coécrit, je le disais, avec l'historien Vivorca, cet ouvrage qui vient de paraître, Les Maîtres de la Stratégie, de Sun Tzu à Warden, qui vient de paraître donc aux éditions du Seuil. Et à mes côtés, pour conduire, mener cette interview, Julien Bisson, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes le directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du Soir. Et question rituelle, Julien, comme chaque semaine, qu'est-ce que l'on trouve aujourd'hui dans l'hebdomadaire Le 1 ?
Eh bien, on se demande comment finir une guerre, parce que nous avons été frappés par la coïncidence, qui n'est sans doute pas tout à fait fortuite, entre la signature d'un cessez-le-feu fragile à Gaza et l'accélération des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. La question étant de savoir si ces négociations peuvent aboutir à une paix durable. Comment finir une guerre pour que, justement, ces accords soient justes, soient acceptés par toutes les parties ? C'est ce qu'on a essayé d'évoquer dans ce numéro, notamment avec Benoît Durieux, avec l'historien Timothy Snyder. Et puis, il y a aussi un récit graphique inédit entre Art Spiegel et Joe Sacco, qui sont accordés sur un récit à quatre mains à Gaza.
Actualité brûlante donc hier en Arabie Saoudite.
La conversation a été, je pense, très utile. Nous ne nous sommes pas contentés d'écouter, nous nous sommes entendus. Et j'ai des raisons de croire que la partie américaine a mieux compris notre position. Il y a eu un vif intérêt pour la levée des obstacles artificiels au développement d'une coopération économique mutuellement bénéfique. Des négociations sont en cours entre les représentants de la Russie et des États-Unis à propos de l'Ukraine et sans l'Ukraine. Nous n'avons pas cédé à tous les ultimatums au moment le plus difficile. Pourquoi l'Ukraine le ferait maintenant ?
La voix de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et la réponse de Volodymyr Zelensky. Benoît Durieux, est-ce que c'est possible d'organiser une paix juste et durable sans le premier concerné, sans l'Ukraine ?
Non, je pense que c'est assez illusoire. Alors, on a quand même un précédent là avec Trump, puisque avant la fin de son premier mandat, il avait de manière assez inattendue ou en tout cas brutale, sans consulter le gouvernement afghan, décidé que les forces américaines quitteraient l'Afghanistan, ce qui s'est fait pas tout à fait avant la fin de son mandat, mais c'est lui qui l'avait décidé quand même. Je crois qu'on peut pas une paix juste. Elle obéit un peu aux mêmes critères que ceux de la guerre juste. C'est ce qu'avait notamment suggéré Michael Walzer. Mm-hmm. Et je crois que c'était. Et il disait, une paix juste, d'abord, il faut avoir une intention droite. Il faut que le règlement, au fond, soit équitable et reconnaisse ce qui a été fait de part et d'autre. Et là, très clairement, et il faut que la paix juste règle le problème de fond. Et là, clairement, on voit que le problème de fond, il n'est pas prêt d'être réglé. Donc, je crois que c'est une paix qui sera extrêmement menaçante, mais pas seulement, certainement, pour l'Ukraine. En tout cas, cette tentative de règlement, mais aussi pour les Européens, je pense.
On déclare une guerre, mais est-ce que l'on peut décréter une paix ?
On peut pas décréter une paix unilatéralement, ça c'est certain. La guerre, en fait, il faut être deux pour la faire, mais la paix aussi, deux au minimum. Et donc, il est certain que il y a un moment donné où il y a deux types de paix en réalité, soit la paix qui en est rarement une où vous avez anéanti l'adversaire, mais c'est extrêmement rare historiquement, et Dieu merci. Et puis la paix qui est l'aboutissement d'une négociation où les deux camps acceptent de déposer les armes. Là, je pense qu'on en est très loin.
Julien Bisson.
Oui, on l'a encore entendu pendant le journal. On a entendu les déclarations de Trump qui dit désormais que c'est la faute de l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui a démarré la guerre. Que son président Zelensky est un dictateur. Est-ce qu'on peut s'accorder sur une paix quand elle repose sur des bases fausses, sur des bases erronées historiquement ?
Moi, je ne crois pas, parce que clairement, si vous vous mettez à la place des Ukrainiens, je ne sais pas très bien sur quoi ça va déboucher, mais on voit absolument aucune raison pour lesquelles les Ukrainiens accepteraient de déposer les armes. Évidemment, encore moins du côté des Russes. Donc, je ne vois pas quelle paix on cherche à obtenir aujourd'hui.
Vous développez un concept dans votre livre, Benoît Durieux, celle, j'allais dire, de demi-paix. En tout cas, l'état de guerre, l'état de paix, ça n'existe pas tout à fait, notamment dans certaines régions. Qu'est-ce que c'est que cette zone grise dont vous parlez, que vous décrivez, qui est cet entre-deux, justement, entre la guerre et la paix ?
Non, alors je pense que vous faites allusion au chapitre sur le général Beaufre, dont c'était un peu la théorie. Alors, c'est un chapitre qui a été écrit par le général Hervé Pierre, qui est quelqu'un d'extrêmement compétent dans ce domaine-là. Il a fait une thèse là-dessus. Pour ma part, c'est pas la position que je soutiendrais. Et je pense que trop souvent, précisément, récemment, on s'est accoutumé, on a trouvé ça assez confortable, assez mobilisant de dire qu'on était déjà à moitié en guerre. Je crois que c'est pas le cas. La guerre, elle commence formellement à Gaza le 7 octobre 2023. Et objectivement, même s'il s'était passé des choses dès 2014, elle commence le 24 février 2022 en Ukraine. Et que, en France, je pense qu'on est en paix. Et le jour où on sera en guerre, on verra, à mon avis, tout de suite la différence.
Les Ukrainiens, eux, disent pourtant que la guerre a commencé en 2014 et que, justement, c'est une perception très européenne des choses de dire qu'elle a commencé il y a 3 ans seulement.
Oui, parce que eux, ils ont bataillé, ils ont ferraillé contre les Russes à l'est de leur pays. Et puis, c'est une prise de position politique, donc on peut discuter, mais en tout cas, la guerre et la paix, c'est pas la même chose. Et je crois qu'il faut pas mélanger les deux concepts, sinon on finit par ne plus savoir ce que c'est que la guerre et ne plus savoir ce que c'est que la paix non plus.
Julien Bisson.
Est-ce qu'il est possible d'essayer de comprendre quels sont les objectifs respectifs de Donald Trump et de Vladimir Poutine dans les négociations qui sont sur le point de s'ouvrir en Arabie Saoudite ? Est-ce que ce sont des objectifs militaires ou est-ce que ce sont des objectifs politiques ?
Alors, il est très difficile de savoir quels étaient au départ les objectifs réels de Vladimir Poutine. Et il est très difficile de savoir encore plus comment ils ont pu évoluer au cours du temps en fonction des résultats quand même probablement très décevants pour lui de sa campagne militaire. Aujourd'hui, j'ai l'interprétation qui me semble être cohérente, c'est de dire que l'intérêt pour ces deux puissances qui sont quand même contestées, c'est probablement de retrouver le statut de superpuissance qui dicte les choses au monde, et notamment pour les Russes qui étaient en recherche, en réalité, de reconnaissance de ce statut d'hyperpuissance qu'ils avaient perdu. Je crois que c'est ça le plus important.
Et ça, ce sera garanti par la victoire ou par le fait de pouvoir décider de la fin de la guerre ?
Alors, pour l'instant, c'est en soi le fait de dire « nous sommes les deux superpuissances, nous parlons ». Et attendez, en soi, je pense que cet objectif est aujourd'hui rempli. Mais ensuite, évidemment, si la guerre ne s'arrête pas, ce qui semble quand même tout à fait possible, voire probable, alors la vanité de cette tentative apparaîtra au grand jour. Et donc, de ce point de vue-là, le pari aura été raté.
J'aimerais vous faire entendre, Benoît Durieux, la voix d'un collègue, si je puis dire, le général François Lecointre. Je le recevais en 2024 et il nous explique que l'idée de paix est erronée.
Vous ne pouvez absolument pas préjuger de ce qui va vous arriver. Je pense que quand on choisit cette vocation militaire, même si on est ancré dans l'idée, cette société est arrimée dans l'idée d'une paix perpétuelle, la réalité c'est que on n'y croit pas au moment où on rentre dans la carrière. Et qu'ensuite, une fois qu'on est lancé dans ces opérations dont je témoigne, on est confronté à la violence du monde. Et on perçoit très clairement le décalage qu'il y a entre l'illusion dans laquelle vit notre société, vivent nos familles d'ailleurs, et cette réalité qui est que les relations humaines sont d'abord faites de rapports de force, les relations entre les sociétés aussi, et que l'homme est violent et qu'il a toujours des occasions d'exprimer cette violence.
Il y a dans l'idée développée par François Lecointre cette idée que les sociétés européennes se sont habituées à la paix depuis des décennies et que les militaires étaient peut-être les derniers à sentir que la guerre pouvait venir, que la guerre était encore dans le champ des possibles. Est-ce que vous êtes d'accord vous-même avec cette idée, Benoît Durieux ?
Oui, je concours tout à fait à ce que disait le général Lecointre. Et si vous regardez bien, aujourd'hui, ça fait près de 80 ans que nous sommes en paix en Europe. On pourrait, même si on s'arrête en 2022, en réalité, près de 80 ans, pour retrouver une période de 80 années de paix en Europe. Je me suis amusé à regarder l'autre jour. Je suis pas un spécialiste d'histoire antique. Je pense qu'il faut remonter encore. Ça peut sans doute se discuter à la Pax Romana, fin du 1er siècle, début du 2e siècle après Jésus-Christ. Et donc, ça dit quand même le caractère tout à fait singulier de la période dans laquelle nous vivons. Mais ça explique aussi pourquoi les dirigeants et les sociétés européennes ont perdu de vue ce que pouvait être la guerre. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, quand vous êtes militaire, nécessairement, vous pensez à ça. Vous pensez à cette perspective et vous entraînez en vue de ça. Donc, nécessairement, mécaniquement, vous y pensez. Pour un métier dont, au fond, le caractéristique de ce métier, c'est qu'il est dominé par l'idée de guerre, mais aussi par le fait que, finalement, votre métier, c'est, un, d'essayer de contribuer à l'éviter par une forme de dissuasion, de crédibilité, et deux, si jamais ça arrive, de terminer la guerre le plus vite possible. Donc vous allez lutter en permanence contre ce qui définit votre métier, en réalité. Mais non, mais c'est vrai, la paix, malgré tout en Europe, on est en paix, je pense. C'est vrai que quand on va sur des théâtres d'opérations, on voit des choses qui sont vraiment pas belles et on se confronte à la violence qu'il peut y avoir dans l'homme. C'est parfois difficile à admettre, à observer. Et on ne peut pas manquer de se dire, en fait, quelle chance on a de vivre dans un pays en paix.
Julien Bisson.
Ça va faire dans quelques jours, ce sera les 3 ans du début de ce conflit en Ukraine. Ça fait 3 ans qu'on parle du retour de la guerre. Est-ce que les sociétés, ou alors chez les dirigeants, cette idée de retour de la guerre a été intégrée, a été comprise, a été acceptée ?
Si on regarde bien la façon dont les choses se sont faites, on avait sur toutes les chaînes d'information en continu la guerre en Ukraine à satiété pendant les premières semaines, presque les premiers mois de la guerre. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et je pense que finalement, en Europe, on s'est habitué, à part quelques spécialistes, au fait que oui, il y avait la guerre en Ukraine, mais que finalement, c'était quand même assez loin, et que tout ça allait finir, comme tout le reste, par trouver son terme. Et je le souhaite, évidemment. Je crois que c'est loin d'être certain, parce qu'il y a quelque chose que dit Clausewitz, qui est à mon avis très vrai, c'est que la guerre, une fois qu'on l'a fait sortir de son lit, une fois qu'elle, c'est un organisme vivant, qui a sa vie propre et qu'il est extrêmement difficile de l'arrêter, même aujourd'hui pour quelqu'un comme Vladimir Poutine, par exemple.
Clausewitz, justement, pourquoi faut-il lire encore Clausewitz aujourd'hui, hein, auteur-penseur de la guerre à cheval entre le 18e et le 19e siècle? Qu'est-ce que Clausewitz a à nous dire de la guerre des drones, par exemple?
Alors, pourquoi il faut lire Clausewitz? Il faut lire Clausewitz, comme d'ailleurs deux autres auteurs du livre que nous venons de co-diriger avec Olivier Vivorca, Sun Tzu et Machiavel, notamment, parce que, précisément, c'est un auteur qui observe une époque où la guerre change profondément. Et si la guerre change profondément, c'est parce qu'il y a des acteurs qui décident à un moment donné de s'affranchir de toutes les conventions qui prévalaient jusqu'à présent. Et en regardant ça, il en tire des conclusions qui dépassent l'actualité immédiate, mais qui tentent d'appréhender la généralité des cas, puisqu'il observe au moins 2 cas très différents. Et donc c'est pour ça que ces auteurs nous disent encore quelque chose qui est valable aujourd'hui. Les drones, évidemment Clausewitz ne parle pas des drones, mais il réfléchit sur le point de savoir si la guerre est maîtrisable ou pas, si la guerre est un art ou une science, si la surprise est possible. Toutes choses qui ne sont pas sans rapport avec ce que sont censés amener les drones, par exemple. Et donc, je pense que lire Clausewitz est extrêmement utile encore aujourd'hui.
Julien Bisson.
Oui, Clausewitz évoque aussi le concept de guerre absolue. Est-ce que c'est quelque chose qui nous guette, qui nous menace?
Alors, la guerre absolue chez Clausewitz, c'est en fait un concept théorique. C'est ce qui se passe dans le domaine des idées si on pousse la logique de la guerre jusqu'à son terme, c'est-à-dire un affrontement qui serait dans l'absolu, instantané, extrême, sans aucun lien avec le reste. Mais c'est une tendance vers un affrontement qui monte aux extrêmes. Ce qui est important chez Clausewitz, c'est pas le concept. La guerre absolue ne peut pas survenir dans le monde réel. En revanche, la montée aux extrêmes, la montée vers cette guerre absolue est quelque chose qui nous guette en permanence.
On va entendre, on va écouter un extrait de la guerre de Clausewitz, justement, lu par Juliette Moëlic.
La guerre consiste en une combinaison multiple de combats particuliers. Les principes que je pense être les plus importants sont les suivants. 1. Pour la défensive, il faut garder ses troupes à couvert le plus longtemps possible. Comme, hormis le moment où l'on passe soi-même à l'attaque, on peut toujours être attaqué, et comme on est par conséquent toujours sur la défensive, il faut toujours autant que possible se mettre à couvert. 2. Ne pas engager toutes ses troupes dans le combat à la fois. Ce serait la fin de toute sagesse dans la conduite du combat, car seules les troupes que l'on a en réserve sont encore à même de changer la tournure du combat. 3. Se préoccuper peu ou pas du tout de la longueur du front, étant donné que c'est là quelque chose d'indifférent en soi, et que la profondeur de la position, c'est-à-dire le nombre de corps de troupes que l'on peut disposer l'un derrière l'autre, diminue à proportion que le front s'étire. Les troupes que l'on garde à l'arrière restent disponibles et peuvent être utilisées aussi bien pour alimenter le combat sur des positions déjà établies que pour ouvrir de nouvelles positions à côté des premières.
On va pas citer Clémenceau, mais la musique militaire, c'est quelque chose, hein, quand même, en général. Benoît Durieux, quand on écoute cette lecture de la guerre de Clausewitz, qu'est-ce que ces enseignements peuvent encore nous dire de la guerre d'aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les lire tels qu'ils sont écrits ou il faut quand même les mettre au goût du jour?
Alors, il y a un premier sens qui est un sens plutôt tactique. Hein. La tactique, c'est la science du combat. C'est vraiment plutôt l'art militaire. Et ce que vient de dire Clausewitz pourrait encore aujourd'hui, à très bon droit, s'appliquer à la conduite des combats pour un capitaine, un colonel ou un général qui commande une brigade, par exemple. Mais au-delà de ça, je pense que ces leçons que tire Clausewitz de son expérience, parce que Clausewitz, ça n'a pas été seulement un écrivain, il a fait la guerre vraiment depuis l'âge de 12 ans. Il a fait la guerre. Ces leçons que tire Clausewitz, elles portent une valeur stratégique sur la valeur, par exemple, du nombre, très clairement. Ce qui se dégage de ce qu'il dit, c'est qu'il faut avoir des réserves, c'est que donc la guerre est imprévisible, c'est pour ça qu'il faut avoir des réserves. C'est que il dit aussi quelque chose qui a été très mal compris par beaucoup de ses lecteurs, y compris en France, où il disait que la défensive est la forme la plus forte de guerre. Et c'était une réflexion extrêmement puissante. Et là, c'est un peu ce qui se dégage. C'est la guerre, ça consiste pas en réalité à attaquer et d'abord à détruire l'adversaire, ça consiste à résister plus longtemps que l'adversaire. Donc ce qui est plutôt le symptôme de la défensive en réalité.
Et ce qui illustre bien par ailleurs ce conflit en Ukraine, Julien Bisson.
Oui, Clausewitz c'était un général prussien à l'époque des guerres napoléoniennes notamment. C'était un stratège de guerre, est-ce qu'il avait quelque chose à nous dire sur la paix?
Alors, Clausewitz, il dit à mon avis quelque chose sur la paix dans la façon dont il envisage l'entrée en guerre. Quand il dit, avant de faire quoi que ce soit, il faut que le dirigeant politique et le chef militaire se mettent autour d'une table et n'envisagent de lancer une guerre qu'en envisageant ce qu'elle peut vraiment donner, c'est la clé d'une paix réussie. C'est-à-dire qu'une paix réussie elle dépend aussi de la façon dont on a conduit la guerre. Le problème de la paix, il se pose pas le jour J, par exemple pour Trump et Poutine, aujourd'hui, ce 19 février 2025. Tout ce qui a été fait depuis 3 ans va nécessairement beaucoup avoir une très forte influence sur la paix qui pourra être durable ou pas. Et c'est dans cette mesure, je pense qu'il faut chercher chez Clausewitz des leçons pour la paix.
L'autre grande actualité de la guerre, elle s'est déroulée le week-end dernier à travers le discours de J.D. Vance, le vice-président américain. Il s'exprimait dans le cadre de la conférence de la sécurité à Munich.
Pour l'Europe, la menace qui m'inquiète le plus n'est pas la Russie ni la Chine. Ce qui m'inquiète, c'est la menace de l'intérieur. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, ses valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul, je le crains. Combien de fois devrons-nous subir ces revers épouvantables avant de changer de cap et de donner une nouvelle direction à notre civilisation commune ?
Discours qui a stupéfié, et on peut le comprendre, hein, les autorités européennes. Benoît Durieux, est-ce que les Européens sont seuls désormais ou doivent apprendre à l'être pour se défendre ?
Je pense qu'ils doivent, je ne sais pas s'ils sont seuls, on peut espérer que derrière les rodomontades de Vance et de Trump, il y ait quand même le fond de la réalité d'une solidarité profonde des États-Unis avec l'Europe, mais ils doivent certainement apprendre à se défendre seuls, parce que un allié qui n'est pas capable de se défendre seul est de toute façon peu crédible pour l'allié qui veut le défendre, si vous voulez.
Mais c'est le cas pour les Européens, pour l'Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale à peu près. On parle bien du parapluie américain quand on évoque l'OTAN.
C'est vrai, et je pense, vous avez raison, et même si des pays, dont la France, ont fait des efforts pour développer une forme d'autonomie, mais clairement, il s'agit aujourd'hui de réaliser qu'un des piliers de la défense de l'Europe est aujourd'hui fragile. On aurait pu le voir à la suite de l'affaire afghane, je pense. Un certain nombre de nos alliés n'ont pas voulu le voir. Je pense que, très clairement, beaucoup de pays de l'Europe de l'Est, en fait, valorisent extrêmement la protection américaine aussi parce que, il faut bien le dire, ils ont appris que il y a quelques décennies, la garantie française s'était avérée sans fondement. Et donc, je crois que ces notions d'histoire de la moyenne durée, disons, restent extrêmement présentes. Mais oui, il faut être capable, il faut arriver à pouvoir se défendre par nous-mêmes. Et se défendre par nous-mêmes, c'est que chaque pays européen doit pouvoir avoir une forme de défense autonome.
Julien Bisson.
Oui, les Européens sont aujourd'hui sur la touche. Ils n'ont pas été invités à la table des négociations sur l'Ukraine. Est-ce que ça veut dire que l'Europe n'a aucun rôle à jouer aujourd'hui dans la gestion de cette fin de conflit ?
L'Europe devra nécessairement jouer un rôle. Je crois que dire que d'abord l'Union européenne n'a joué aucun rôle dans la crise ukrainienne me paraît tout à fait éloigné de la réalité. Évidemment, l'Union européenne n'a pas joué un rôle sur le plan militaire. Mais tout ce que l'Europe a joué comme rôle pour gérer la crise énergétique et le chantage au gaz, pour prévoir et se coordonner au sujet des sanctions financières, pour envisager les autres types de sanctions, pour accorder une aide financière à l'Ukraine, a quand même fait apparaître en réalité, contrairement à une idée reçue, l'Union européenne comme un acteur stratégique. Après, d'un point de vue militaire, je ne crois pas qu'il faille chercher du côté de l'Union européenne un doublon de l'OTAN ou quelque chose de différent. En revanche, les pays militairement les plus complets doivent certainement prendre l'initiative de façon à entraîner l'ensemble des pays d'Europe à développer des moyens européens de défense, ça c'est certain.
Vous évoquez, Benoît Durieux, un peu plus tôt dans cet échange, l'attachement de certains pays de l'Est au parapluie américain. J'imagine que vous pensiez aux États baltes notamment. Il y a un contre-exemple pourtant aujourd'hui que beaucoup évoquent, c'est la Pologne qui se réarme très largement, qui investit un pourcentage considérable, entre 5 et 6% de son PIB pour le réarmement militaire. Est-ce que la Pologne montre l'exemple à suivre, si je puis dire, du point de vue du réarmement?
Alors, la Pologne est en train de consentir un effort de réarmement extrêmement important, c'est vrai, mais la Pologne est restée jusqu'à aujourd'hui ancrée dans l'idée, malgré tout, que la garantie américaine était irremplaçable et que leurs investissements de défense, ils les ont fait en priorité dans l'industrie de défense américaine. Et ce n'est que quand l'industrie de défense américaine n'a plus pu fournir qu'ils ont acheté, par exemple, des chars coréens. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que, la Pologne, on peut les comprendre, qu'on sent un effort de réarmement très significatif. Mais je ne pense pas qu'ils aient du tout renoncé à la garantie américaine.
Merci beaucoup, Benoît Durieux. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les maîtres de la stratégie. Vous le co-signez avec Olivier Wieworka et beaucoup d'autres contributeurs. Julien Bisson, rappelez-nous ce que l'on trouve cette semaine dans l'hebdomadaire Le 1, à part justement Benoît Durieux.
Bien, le titre est « Comment finir une guerre ? Retour sur les guerres qui n'en finissent pas, à Gaza, en Ukraine et ailleurs. »
Dans toutes les bonnes librairies et dans tous les excellents kiosques. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à Question du Soir.